Bonjour à tous. Liliane sur Radio Grand Ciel qui vous emmène au XVIIe siècle en compagnie de Jean de La Fontaine. Le coche et la mouche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, six forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu, l'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approche, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, viens, fais l'empresser. Il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin, qu'aucune aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire, il prenait bien son temps. Une femme chantait, c'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait cent sottises pareilles. Après bien du travail, le cloche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. Ainsi certaines gens, faisant les empresser, s'introduisent dans les affaires, ils font partout les nécessaires, et partout importuns devraient être chassés. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. En employait l'argent, achetait un cent d'œuf, faisait triple couvée, la chose allait à bien par son soin diligent. « Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. » Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurais, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau ? Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, quittant d'un œil mari sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates, un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Oh, Dieu hospitalier, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays !» La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre, qu'à logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage ? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte mite, un saint homme de chat bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Grippe Minot le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. La tortue et les deux canards. Une tortue était, à la tête légère, qui, lasse de son trou, voulut voir le pays. Volontiers on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers Jean Boiteux haïsse le logis. Deux canards, à qui la commère communiqua ce beau dessein, lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin ? Nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Vous verrez maintes républiques, maints royaumes, maints peuples, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La tortue écouta la proposition. Marché fait, les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule, en travers, on lui passe un bâton. « Serrez bien, dirent-ils, gardez de lâcher prise !» Puis chaque canard prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison, justement au milieu de l'un et l'autre oison. « Miracle » criait-on, « venez voir dans les nues passer la reine des tortues !» La reine, vraiment oui, je la suis en effet, ne vous en moquez point. Elle eut beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car, lâchant le bâton en desserrant les dents, elle tombe, elle crève aux pieds des regardants. Son indiscrétion de sa perte fut cause. Imprudence, babil et sotte vanité et vaine curiosité ont ensemble étroit parentage, se sont enfants tous d'un lignage. Le vieux chat et la jeune souris. Une jeune souris de peu d'expérience crut fléchir un vieux chat implorant sa clémence et payant de raison le ramina grobis. Laissez-moi vivre, une souris de ma taille et de ma dépense est-elle à charge en ce logis? Affamerai-je, à votre avis, l'hôte, l'hôtesse et tout leur monde? D'un grain de blé je me nourris, une noix me rend toute ronde. À présent je suis maigre. Attendez quelque temps, réservez ce repas à messieurs vos enfants. » Ainsi parlait au chat la souris attrapée. L'autre lui dit, « Tu t'es trompé. Est-ce à moi que l'on tient de semblables discours? Tu gagnerais autant de parler à des sourds. Chat et vieux, pardonnez, cela n'arrive guère. Selon ces lois, descends là-bas, meurs et va-t'en tout de ce pas haranguer les sœurs filandières. Mes enfants trouveront assez d'autres repas. » Il tint parole. Et pour ma fable, voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable.